Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Eh bien, finalement, aujourd'hui, les Britanniques fêteront Halloween et c'est tout. Pas de Brexit à craindre ou à célébrer, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est de nouveau repoussée. Pas de Brexit pour l'instant, mais une campagne électorale qui a démarré sur les chapeaux de roue en vue des élections du 12 décembre prochain. Après les députés, les lords ont donné leur accord hier soir pour ce scrutin anticipé. Reste à obtenir l'assentiment de la reine, une formalité avant la dissolution du Parlement. Ce sera en principe le 6 novembre prochain.
Order! 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 Order!
Élection le 12 décembre, mais le Parlement de Westminster va changer dès aujourd'hui jeudi. John Bercow tire sa révérence. Le président conservateur de la Chambre des communes a joué un rôle clé dans cette interminable saga du Brexit. Il part avant la fin. Héros pour les partisans de l'Union européenne, adversaire pour les europhobes. Il a surtout été pendant 10 ans un farouche défenseur des droits du Parlement. Les journalistes vont regretter ses rappels à l'ordre, son goût pour les cravates criardes. Son successeur sera désigné lundi. Il siégera un jour seulement avant la dissolution du Parlement. Quant à John Bercow, il va consacrer du temps à sa famille. Il avait promis en 2017 à ses enfants qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat. Les hommes politiques britanniques qui auront quitté le pouvoir avant de voir le Brexit se réaliser se font de plus en plus nombreux. Avec ce troisième report, on parle maintenant d'un Brexit au 31 janvier 2020. Ça fait 3 ans et demi après le vote des Britanniques par référendum pour sortir de l'Union européenne. Et à l'époque, le Premier ministre conservateur, c'est David Cameron. Et c'est l'homme par qui le Brexit est arrivé. David Cameron a publié il y a quelques semaines son autobiographie, For the Record, qu'on peut traduire par « Qu'il soit noté dans les registres ». Bonjour Marie Billon.
Bonjour Juliette.
Clairement, l'ancien Premier ministre veut donner sa version des faits.
Ah oui, c'est toujours le but de ces traditionnels ouvrages autobiographiques publiés après avoir quitté le pouvoir. Mais pour David Cameron, on sent qu'il n'attendait que ça. Il attendait que le Brexit se calme un peu. Septembre 2019 devait être le moment idéal. C'était bien sûr sans compter le report de la sortie de l'Union européenne au 31 octobre et surtout sans compter sur la démission de Theresa May et la récente élection de Boris Johnson, un nouveau Premier ministre qui venait juste de suspendre le Parlement. On peut difficilement faire mieux en termes de tragédie grecque de la politique britannique. Le livre a reçu un écho supplémentaire encore en raison des propos de David Cameron sur la reine. Décidément, les premiers ministres conservateurs traitent bien mal Sa Majesté. Alors que Boris Johnson est accusé d'avoir menti à Elisabeth II pour qu'elle suspende le Parlement, David Cameron, lui, s'est montré trop bavard. Rappelons que tout ce que la reine dit à ses politiques doit rester confidentiel. En cause des indiscrétions au sujet du référendum sur l'indépendance organisée en Écosse, sujet ô combien délicat au Royaume-Uni. Avant même la publication du livre, David Cameron s'était répondu sur une conversation téléphonique avec la souveraine. Il avait ainsi été entendu dire qu'Elisabeth II avait ronronné de plaisir en apprenant que l'Écosse avait voté contre l'indépendance en 2014. Il révèle maintenant qu'il a demandé à la reine de s'insérer dans le débat, en l'occurrence de lever un sourcil en public et donc de se mêler de politique, ce que Sa Majesté ne fait pas. David Cameron s'est vite rendu compte qu'il avait commis un faux pas et a voulu éviter le sujet lors des interviews de promotion.
Marie, est-ce que dans ce livre, David Cameron fait son mea culpa sur le Brexit? Est-ce qu'il estime avoir mal calculé l'euroscepticisme dans son pays en organisant un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne en 2016?
L'ex-premier ministre utilise un vocabulaire relativement agressif quand il aborde ce sujet. Dictature de l'Europe, déficit démocratique, menace. L'opinion publique voulait d'un référendum, dit-il. Non, il n'a pas voulu régler un problème interne à son parti en l'organisant, faire taire une fois pour toutes les europhobes. Non, il ne pensait pas qu'il n'aurait pas à tenir sa promesse, puisqu'il n'imaginait pas avoir une majorité absolue en 2015. David Cameron va même plus loin. Voici un extrait du livre audio lu par ses soins.
Je pensais que c'était la bonne chose à faire pour le pays. J'étais convaincu qu'il s'agissait de la meilleure stratégie pour conserver le Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. La stratégie a échoué. J'ai échoué. Mais cela partait d'une bonne intention.
Dans le livre, il se vante d'être un eurosceptique, ah oui, mais un eurosceptique raisonnable. Joe Johnson, le frère de Boris Johnson, qui était ministre sous David Cameron notamment, dit que lire ce livre, c'est voyager dans le temps, retourner dans un monde qui semble lointain, dans lequel il suffit d'ouvrir les yeux pour voir des gens raisonnables, rationnels et décents, partageant la même vision libérale et polie de la scène politique que David Cameron.
Il est beaucoup question d'Europe dans ce livre, Marie, mais pas que. Que retient David Cameron de ses 6 ans au 10 Downing Street?
Déjà, il a réussi à faire tenir 5 ans une coalition avec les libéraux démocrates du centre. Pour un pays qui n'aime pas les coalitions, c'est déjà un exploit. Mais cela tient autant à Nick Clegg, son vice-premier ministre, qu'à lui. David Cameron est aussi le premier ministre conservateur qui a légalisé le mariage gay. Il y dédie tout un chapitre. Il ne parle pas beaucoup, par contre, de l'échec de sa Big Society, son projet idéal de société où tout le monde s'entraide si bien que l'État devient de plus en plus petit et discret. Son bilan international, par contre, il le décrit avec plus de détails. Les raisons de sa participation à l'intervention en Libye, aboutissant à l'assassinat du colonel Kadhafi, malgré le traumatisme que fut la guerre en Irak. Sur la Syrie, d'ailleurs, il utilise une formule qu'il a certainement voulu coup de poing. Quand les députés britanniques rechignent à voter pour une intervention contre Bachar al-Assad, il dit que la guerre en Irak peut désormais ajouter les Syriens à la liste de ses victimes. David Cameron parle aussi beaucoup de ses bonnes relations avec les chefs d'État et de gouvernement, en particulier Barack Obama. Il explique même qu'il a trouvé le remède aux phrases longues et au débit lent de l'ex-président des États-Unis, discuté en faisant du jogging. Ça le force à être plus synthétique. En somme, David Cameron semble faire beaucoup d'efforts pour montrer qu'il était un joueur de haut calibre dans la cour des grands, mais il a parfois des formules qui résonnent de naïveté. Pour convaincre Vladimir Poutine d'arrêter de défendre Bachar al-Assad après l'utilisation d'armes chimiques contre son peuple, il propose une conférence internationale à Moscou. Peu importe qui en reçoit les lauriers, tant qu'on débouche sur la bonne solution, écrit-il. En somme, si les Britanniques n'ont pas un souvenir attendri de lui, il est peut-être un peu plus en bonne grâce sur la scène internationale.
Merci Marie Billon, à bientôt.
L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes.
Mais après le Brexit, que va-t-il se passer? L'incertitude demeure quant au sort du Royaume-Uni, puisque l'Écosse, mais aussi l'Irlande du Nord, sont susceptibles, dans ce nouveau contexte, d'être tentés par un nouveau départ, celui du Royaume-Uni. On en parle avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Daniel, le Brexit mettrait-il vraiment en danger l'intégrité du Royaume-Uni?
La menace, même si elle apparaît encore lointaine, n'est en rien une vue de l'esprit, et cela pour deux raisons principales. Une raison politique d'abord, contrairement à l'Angleterre et au Pays de Galles, où il y a eu un vote majoritaire en faveur du Brexit, les électeurs d'Irlande du Nord et d'Écosse ont rejeté le départ de l'Union, les premiers à près de 56%, les seconds à 62%. Ces deux nations n'ont pas donné mandat au gouvernement britannique de quitter l'Union. Il y a par ailleurs, dans un pays qui n'a pas de constitution écrite, un contexte juridique propice à d'éventuelles indépendances. Que ce soit dans la Grande Charte de 1215, le Bill of Rights de 1689, l'Acte d'Union de l'Angleterre et de l'Écosse de 1707, ou encore le Scotland Act de 1998, mettant en place un parlement et un gouvernement en Écosse, rien dans les textes à caractère institutionnel du pays ne prévoit la sécession éventuelle de l'une des nations constitutives du royaume, et donc rien ne l'interdit. On comprend mieux dès lors que le référendum d'indépendance de l'Écosse de 2014 se soit tenu en accord avec Londres, le gouvernement britannique n'ayant aucune base juridique pour s'y opposer.
Mais Daniel, concernant l'Écosse, qu'est-ce qui pourrait changer le non à l'indépendance de 2014 en oui?
La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé il y a déjà plusieurs mois qu'il y aurait un autre référendum d'indépendance en avançant cet argument. Avec le Brexit, nous payons le prix de notre absence d'indépendance. Des sondages effectués en août dernier semblent lui donner raison, puisque 47% des Écossais contre 45% sont favorables à ce nouveau référendum et que, en cas de vote, l'indépendance recueillerait 52%.
Ce sont des marges qui sont quand même assez minces, hein.
Tout va dépendre de ce qui va se passer dans les 2 ans à venir. Si Londres ne s'accorde pas avec Bruxelles sur un large accord de libre-échange préservant l'accès du Made in UK au marché européen, si les normes sociales devaient être revues à la baisse et surtout si l'économie britannique ne parvenait pas à digérer le Brexit, alors le nombre de partisans de l'indépendance écossaise va s'accroître.
L'économie écossaise résisterait-elle alors à une indépendance ?
pourquoi pas, dans la mesure où les relations Angleterre-Écosse resteraient bien sûr étroites et que l'économie écossaise fortement tertiarisée ne pourrait que gagner à demeurer intégrée au marché européen.
Alors vous évoquiez également l'Irlande du Nord, Daniel, mais l'indépendance n'y est nullement à l'ordre du jour.
Alors, il est vrai, Caroline Foster, la chef du parti unioniste démocrate, le DUP, première formation à l'Assemblée d'Irlande du Nord, est très pro-britannique et s'est toujours déclarée favorable au Brexit, bien qu'elle refuse de soutenir l'accord signé par Boris Johnson. Mais l'Assemblée compte autant d'unionistes que de nationalistes partisans de la réunification irlandaise, et l'ancien président du Sinn Féin a appelé à l'organisation d'un référendum de réunification. Donc, en Irlande du Nord, les partisans d'une séparation d'avec la Grande-Bretagne représente un courant non négligeable.
Pourquoi est-ce que l'idée d'une réunification pourrait être attractive désormais ?
L'économie d'Irlande du Nord est sinistrée malgré d'importants financements britanniques et européens, et le PIB par tête de la République d'Irlande est supérieur de 45% à celui de l'Irlande du Nord. L'attractivité du Sud est donc très forte. Et puis, démographiquement, le nombre de Nord-Irlandais se réclamant du protestantisme ne cesse de diminuer, tandis que le nombre de catholiques progresse. Aujourd'hui, on compte 41,6% de protestants contre 40,8% de catholiques. Une fois majoritaire, doit-on en conclure que ces derniers voteront tous pour la réunification à une république catholique ? C'est loin d'être une certitude, d'autant que les nouvelles générations sont beaucoup moins clivées au plan religieux ou identitaire.
Enfin, Daniel, il y a des territoires qui vont rester liés à l'Angleterre.
Sans nul doute, le Pays de Galles, conquis par les Anglais au XIIIe siècle, est intégré au royaume au XVIe. Un autre petit territoire devrait certainement rester britannique, il s'agit de Gibraltar, au sud de l'Espagne. Certes, les habitants du Rocher ont voté à 96% contre le Brexit, mais il y a 17 ans, ils avaient rejeté à 99% le projet de co-souveraineté hispano-britannique. Quant à l'indépendance, ce confetti de l'Empire, quand même très dépendant de l'Espagne, ne devrait pas s'y risquer, d'autant qu'il aurait du mal à rester membre de l'Union européenne, vu qu'il faudrait s'y faire accepter à l'unanimité des États membres, et donc avec l'aval de l'Espagne.
Daniel Vigneron du site myeurope.info. Si la perspective d'un Brexit avec accord semble aujourd'hui la plus probable, on ne peut pas exclure l'hypothèse d'un Brexit dur. Les risques du no deal ne sont pas écartés. C'est ce qu'a rappelé Michel Barnier, le négociateur européen, lors d'un discours à Bruxelles. Toutes les inquiétudes, toutes les incertitudes ne sont donc pas levées, notamment pour les Britanniques qui vivent à l'étranger dans un pays de l'Union européenne. Ils sont 380 000, par exemple en Espagne. Un tiers d'entre eux a plus de 65 ans et ils ne sont sûrs de rien, ni du futur de leur couverture sociale, ni des retraites ou de leurs droits comme citoyens. Alors, le nombre de demandes de régularisation a augmenté en flèche ces derniers mois. Reportage dans un village de Brexpat en Espagne avec Diane Campo.
Avec ses 28 degrés à midi en plein automne, ses bougainvilliers exubérants et ses terrasses ombragées, Montilla est un havre de paix pour la centaine d'Anglais venus vivre dans ces terres andalouses. Il y a même un petit pub où vers 16h, les premiers Britanniques viennent prendre une pinte au soleil. Or, depuis 2016, lorsque les Britanniques de la Isla, de l'île, ont décidé de se séparer de l'Union européenne, cette idylle s'est fissurée face à l'incertitude du Brexit. Claire, âgée de 43 ans, vit depuis 5 ans dans une finca, une belle ferme entourée d'oliviers avec son ami, un Espagnol, avec lequel elle a eu un enfant. Or, son travail dans le commerce l'oblige à voyager régulièrement, ce qui risque de devenir compliqué si elle perd son statut européen. Elle craint pour sa liberté de circulation.
Ce qui me préoccupe le plus, c'est mon travail, car je suis obligée de voyager beaucoup en Angleterre. J'y vais avec mon fils. Ce qui m'inquiète, c'est de savoir si la valeur de la livre va chuter, si les prix des billets d'avion vont augmenter, si cela va me revenir très cher de continuer à travailler là-bas. Tout va dépendre de si on pourra sortir et entrer facilement dans le pays.
Avec une carte de résidence européenne depuis 5 ans, Claire pourrait demander la nationalité espagnole. Ce n'est pas le cas de nombreux Britanniques récemment arrivés en Espagne qui, poussés par la menace du Brexit, cherchent à régulariser en toute hâte leur situation. Madrid a dessiné un plan spécial pour accorder un permis de résidence après inscription au registre du recensement à ceux qui étaient dans les limbes administratifs. Officiellement, leurs droits comme l'accès à la santé publique ou le vote aux élections municipales seraient maintenus en vertu d'un accord bilatéral. Mais rien n'est moins sûr. Greg, un professeur d'anglais de 25 ans, a choisi de vivre en Andalousie il y a 3 ans. Originaire de Cambridge, il donne des cours 3 fois par semaine dans la ville de Cordoue, à 1 heure de Montilla. Son avenir dépendra de son statut légal, comme il l'explique, une pinte à la main.
Mes parents sont irlandais, donc je viens de faire les démarches pour obtenir un passeport irlandais. Mais je ne sais pas combien de temps cela va prendre. Ici, c'est un problème car tout est déjà très compliqué pour faire des papiers. Alors imaginez avec le Brexit, et si mon passeport irlandais tarde trop, je ne sais pas ce qui va se passer, je serai un clandestin.
Pour les retraités britanniques, tous dotés pour la plupart de leur carte de résident européen, ce sont d'autres préoccupations qui les minent. Carla, une londonienne qui vient de fêter ses 75 ans, se demande si elle pourra continuer d'avoir accès aux services de santé espagnols.
Lo más importante es derecho.
Le plus important pour nous, c'est notre droit à l'assistance sanitaire. C'est ce qui inquiète tout le monde. Si nous ne sommes plus européens, que va-t-il se passer aussi avec nos retraites ? Elles ne seront plus indexées sur le coût de la vie et on va rester avec des retraites bloquées à l'âge où on est parti.
Malgré toutes ces incertitudes, la grande majorité d'entre eux n'a aucune envie de retourner vivre au Royaume-Uni. Comme l'explique John, un sexagénaire à la peau rougie par le soleil, qui vit depuis 15 ans en Andalousie.
Whatever happens, Spain is my home.
Quoi qu'il advienne, l'Espagne est ma maison. Je vis dans cette vallée, je vis ici. C'est chez moi, mais je ne reviendrai certainement pas. J'espère juste que le gouvernement espagnol me laissera vivre ici jusqu'à ce que je meurs.
Le gouvernement intérimaire de Pedro Sanchez a promis que s'il gagnait les législatives du 10 novembre prochain, son administration fournirait des permis de résidence à environ 400 000 personnes. Encore une autre incertitude à laquelle doit faire face la communauté britannique d'Espagne.
Pour certains, le Brexit, c'est une occasion en or de faire des affaires. En Angleterre, un commerçant italien a créé un kit pour survivre à la sortie de l'Union européenne. Les précisions de Cécile Debarge.
Et si les Britanniques se mettaient à cultiver sur leur balcon des tomates de San Marzano, du basilic ou du chou noir? C'est l'idée de Paolo Arrigo, un londonien issu d'une longue lignée d'immigrants originaires de la région de Biella, dans le nord-ouest de l'Italie, qui voit dans cette idée originale une manière de prendre le Brexit avec philosophie. Des saveurs de Campanie, de Toscane ou de Ligurie pour lutter contre la morosité politique, l'idée est venue à ce pépiniériste lors d'une discussion avec des amis, avec qui il constate que les messages alarmistes prennent des proportions démesurées et que les sites de vente en ligne proposent des kits de survie en vue de la sortie de l'Union européenne. Paquet de pâtes, olives, pack de bière, tout est prévu comme s'il fallait préparer un siège de plusieurs mois. Le commerçant, à la tête de la dernière pépinière de Londres, décide alors de lancer sa propre version, renouant ainsi avec une longue tradition de jardins citoyens dont le nombre a chuté ces dernières années. Mais pour 21 sterlings 99 et 12 variétés différentes de fruits et légumes, le pépiniériste espère aussi sensibiliser les familles à leur alimentation et au pays de provenance de leurs produits. Car l'alimentation des Britanniques est fortement dépendante des pays de l'Union européenne. Selon des chiffres que rappelle Il Sole 24 Ore, le quotidien qui a déniché cette histoire originale, 70% des fruits rouges, 80% des tomates et 90% des laitues consommées outre-Manche proviennent des pays de l'Union européenne. Le risque est qu'en cas de Brexit et sans accord commercial favorable, il soit peu à peu remplacé par des produits de moindre qualité venant de Chine notamment, et que les graines, toutes originaires des campagnes italiennes que commercialise Paolo Arrigo, disparaissent elles aussi des étals londoniens.
Accent d'Europe à la réalisation, Ludivine Amado. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur le site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.